Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La plage abandonnée par Brigitte Bardot, celle de Saint-Tropez. Nous serons en direct dès le début de ce journal auprès de ses admirateurs qui rendent hommage depuis hier à cette icône du cinéma disparue à 91 ans, symbole de la femme libre et engagée pour la défense des animaux. Le plan grand froid enfin activé en région parisienne. Le dispositif vise à protéger les sans-abri et Claude Puel, attendu à Nice ce matin, successeur de Francaise sur le banc des Aiglons.
Émotion toujours très vive ce matin à la Madrague.
Là où Brigitte Bardot est morte hier à 91 ans, résidence de Saint-Tropez, où elle avait choisi de s'installer depuis les années 50. Sur place, en direct ce matin, Amélie Courtet. Vous êtes, Amélie, devant la Madrague où beaucoup de Tropéziens sont venus se recueillir depuis hier.
Oui, protégée encore ce matin par des barrières et gardée par des policiers. Nous sommes ici à quelques mètres seulement de sa villa, la Madrague, acquise à la fin des années 50. Célèbre résidence où Bébé est décédé hier à 91 ans dans les bras de son mari, Bernard Dormal. Ici, des bougies, des fleurs, des peluches et des portraits en noir et blanc de l'actrice jeune s'accumulent au pied d'un muret. Depuis hier après-midi jusque tard dans la nuit, les fans de Brigitte Bardot se sont succédés pour prier, rendre hommage à cette star mondiale et locale ici à Saint-Tropez, car c'est elle qui a créé le prestige de la ville, saluait hier un Tropézien. Une grande femme irremplaçable, réagissait encore d'autres habitants, citant à tour de rôle ses films et Dieu créa la femme, le mépris, son combat pour la cause animale, admiratif enfin de son caractère bien trempé. Sur un bouquet de roses, un dernier mot, chère Brigitte, je t'aime pour toujours.
Amélie Courtet, en direct de Saint-Tropez ce matin pour RMC, Brigitte Bardot. C'était donc une voix, un regard, un visage à la une de toute la presse ce matin, icône du cinéma, de la mode, mais aussi de la chanson. 80 titres à son actif que ces Strasbourgeois ne sont pas prêts d'oublier.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Oui, c'est bon, je connais. Bah oui, je l'aimais bien, oui, forcément, bah, ça fait partie de notre culture musicale française.
Hein. Elle était incontournable, surtout au niveau de ses musiques. Moi, j'adorais ses musiques. La chanson qui s'appelait Moi, je joue. Moi, je joue. Moi, je joue, je contre-joue.
On ne reconnaît plus personne en Harley Davidson. Et puis voilà.
Et nous pleurons une légende du siècle, dit Emmanuel Macron, qui rend hommage à celle qui fut le visage de Marianne, symbole de la libération des mœurs, de l'émancipation de la femme. Brigitte Bardot a bousculé les codes de sa génération, affranchie, engagée aussi pour la protection des animaux avec la création de sa fondation, un demi-siècle de combat acharné avec un héritage qui restera. Philippine Boulet a pu s'en rendre compte dans un centre de la SPA de région parisienne.
Abigail est venue à la SPA de Gennevilliers pour adopter un chien.
Et le papa a enfin dit oui.
Pour sa famille, la disparition de Brigitte Bardot a fait l'effet d'un déclic.
On regardait les images de Brigitte Bardot et oui, c'est parti de là du coup de regarder sur la SPA.
Une autre visiteuse, Josette, pense recueillir un chat. Elle l'affirme, sans l'engagement de Brigitte Bardot, la cause animale aurait pu tomber dans l'oubli.
Enfin, pour moi, c'est grâce à elle. Peut-être que la SPA, ça serait... elle serait peut-être même pas en vie, enfin on sait pas.
Stéphane Lamarre a lui fondé une association de protection animale. Il s'est inspiré de l'engagement de Brigitte Bardot.
C'est une personne qui m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai découvert à la télévision lorsque j'avais 10 ans, en 1992. Et depuis ce temps-là, je marche sur ses pas. Son combat était sincère, réel, efficace. C'est ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a touché. Et je me suis dit, il faut que je m'engage moi aussi.
40 ans après sa création, la Fondation Brigitte Bardot compte aujourd'hui 4 refuges et mène des actions dans plus de 70 pays.
Et réaction également de la classe politique du centre à l'extrême droite dont elle était proche. Le RN a salué hier une ardente patriote.
Vous avez raison de souligner du centre à l'extrême droite, puisqu'à part Émeric Caron, il y a eu assez peu de réactions à gauche. Émeric Caron qui salue son engagement pour la cause animale. Il y a aussi ce volet de Brigitte Bardot, bien sûr, ses engagements politiques. Elle a quand même rencontré tous les présidents de la 5e. Vos souvenirs avec Brigitte Bardot au 32-16, n'hésitez pas ce matin. Il est 7h05 et le plan grand froid est activé en région parisienne.
Et ce, en raison des températures particulièrement froides, voire même négatives, la nuit qui touche la capitale et qui devrait persister. La préfecture a donc répondu favorablement à la mairie de Paris qui réclamait la mise en place de ce dispositif depuis plusieurs jours. Un plan désormais établi dans une trentaine de départements avec l'objectif clair, Lucas Laubert, de protéger les plus démunis.
Oui, un préfet peut activer ce plan lorsque les températures sont particulièrement basses et que le froid s'installe pour une longue durée. Dès son entrée en vigueur, une série de mesures est appliquée pour protéger les plus fragiles, notamment les sans-abri. Les horaires des centres d'accueil de jour sont étendus, plus tôt le matin et plus tard le soir. Des places d'hébergement d'urgence sont aussi débloquées. Exemple à Paris, où 60 femmes isolées sont accueillies dès aujourd'hui dans des salles de la préfecture de région. Des places d'hôtel vont aussi être débloquées pour des familles, ainsi qu'un gymnase en Seine-Saint-Denis. Autre mesure, le renforcement des maraudes avec plus de moyens humains, mais aussi pour le 115, numéro d'urgence, avec plus de personnes pour répondre aux appels. Enfin, des consignes de vigilance sont adressées aux policiers et aux pompiers pour mieux détecter et protéger les personnes en danger.
Une nouveauté ce lundi, les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h deviennent un délit, passible désormais de 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Et puis un chiffre, 4 208, c'est le nombre de condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024. Selon le ministère de la Justice, information que vous révèle RMC ce matin, on est loin des 200 000 victimes de ce fléau par an. On en reparlera dans le journal de 7h30.
200 000 victimes, 4000 condamnations, ce ratio est effrayant. Vous avez été victime d'usurpation d'identité, vous prenez la parole ce matin, on a besoin de vos témoignages au 32-16. La première prise de parole de Thierry Breton depuis son interdiction de séjour prononcée par les États-Unis.
Visé avec 4 autres personnes par l'administration Trump pour avoir été l'un des fers de lance de la régulation des grandes plateformes technologiques, l'ancien commissaire européen au marché intérieur s'est exprimé hier soir sur TF1.
Au-delà de ma personne, c'est l'Europe. C'est l'Europe évidemment qui est atteinte et qui est touchée. On m'interdit d'aller aux États-Unis, tout simplement parce que j'ai présenté, au nom de la Commission, au nom du Collège des commissaires, un texte de loi pour protéger nous-mêmes par rapport à toutes les déviances. On ne peut pas nous imposer de changer les lois que nous avons démocratiquement votées. Tout ça pour faire plaisir à qui ? Pour faire plaisir aux GAFAM, pour faire plaisir aux grandes plateformes américaines ? Eh bien non, il faut se lever, il faut résister.
Une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier, annonce d'Emmanuel Macron après la rencontre cette nuit aux États-Unis entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De nombreux progrès ont été faits, assure le président américain qui évoque un possible accord de paix entre l'Ukraine et la Russie dans les semaines à venir. L'Algérie qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, victoire 1-0 hier soir face au Burkina Faso. Le Maroc va tenter d'en faire autant ce soir, le pays hôte de la compétition opposé à la Zambie, coup d'envoi 20h à vivre sur RMC. Puis en Ligue 1, Francaise ne sera pas à la reprise de l'entraînement ce matin à Nice. Le coach Arthur Perrault a décidé, en accord avec son club, de quitter ses fonctions.
Oui, cette fois la séparation est bien actée avec un bilan de 9 défaites sur ses 10 derniers matchs. Francaise quitte Nice. Ces dernières semaines, après une énième contre-performance en Coupe d'Europe, il avait déjà suggéré qu'il pouvait être le fusible. Le technicien avait même présenté sa démission avant de se rétracter. Cette fois, la décision a été prise de concert avec notamment le président du club, Jean-Pierre Rivère. Arrivé il y a un an et demi en provenance de Lens, Aize laisse le club à la 13e place du classement. Claude Puel va prendre sa place, celui qui a dirigé l'équipe entre 2012 et 2016 est attendu aujourd'hui à la reprise de l'entraînement. Il sera accompagné de Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation, un binôme de fidèles de l'OGC Nice pour enfin sortir de la crise.
Et Toulouse, en rugby, qui reprend la tête du top 14 en très grande forme hier soir face à La Rochelle, victoire 60-14.
Merci beaucoup Thibaut Texer, vous restez bien sur RMC, vous intervenez quand vous le souhaitez au 32-16 sur ces sujets, sur Brigitte Bardot bien sûr, mais vous avez entendu d'autres sujets qui font l'actualité, les usurpations d'identité notamment, avec 4206 plaintes qui aboutissent seulement à une condamnation, 200 000 victimes par an, c'est colossal. Vous réagissez au 32-16 ou sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424, il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Et Martin, on a des réactions justement ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et beaucoup de réactions, effectivement, notamment à ce chiffre RMC que vous évoquiez, Mathieu. 4208 condamnations pour usurpation d'identité en 2024. Pour 200 000 victimes chaque année, 4208 condamnations seulement. Romain nous écrit sur WhatsApp 0612 424 424. J'ai appris au bout de 2 ans l'utilisation de mon permis par quelqu'un d'autre. J'ai souhaité porter plainte, impossible, car il fallait que je prouve à la préfecture que ce n'était pas moi au volant avant de pouvoir porter plainte. C'était il y a 2 ans. je n'ai toujours pas réussi à porter plainte. Voilà ce que nous écrit Romain sur WhatsApp. Et vous, est-ce que vous avez déjà été victime d'usurpation d'identité, des vols de données personnelles, des vols d'argent également? Venez témoigner ce matin, on attend vos messages et on attend vos appels également au 3216. Vous réagissez aussi à cet autre sujet, les grands excès de vitesse qui deviennent des délits à partir d'aujourd'hui, plus de 50 km/h, et vous êtes passible de 3 mois de prison, 3 750 € d'amende et inscription au casier judiciaire. Le montant de l'amende n'est pas assez dissuasif, nous écrit Kim sur WhatsApp. Cricri, elle, de son côté, écrit que ce sont souvent les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. J'ai peur que ça ne change rien à leur conduite, malheureusement. Et vous, 3216 et WhatsApp 0612 424 424.
Et puis face à la pénurie de médecins, l'État élargit les missions des infirmiers. Consultations, prescriptions, vaccination, une réforme attendue depuis des années. Bonjour Thierry Amourou.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du syndicat national des infirmiers. Qu'est-ce que ça change pour les infirmiers, pour les patients surtout? Vous nous répondez dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h13, vous êtes sur RMC et RMC Story. Les 640 000 infirmières et infirmiers de France peuvent en faire plus depuis vendredi. Un décret paru au journal officiel élargit le champ de leur mission à prescrire certains soins, certains médicaments, mener des consultations et même poser un premier diagnostic. Bonjour Thierry Amourou.
Bonjour.
Vous êtes donc porte-parole du syndicat national des infirmiers. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les patients?
Ben, il faut bien comprendre que ce décret du 24 décembre, c'est un cadeau de Noël pour l'ensemble des Français, parce que ça va fluidifier les parcours de soins. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des retards liés aux difficultés, et ces retards de prise en charge, ben, ça peut se traduire en perte de chance. Par exemple, dans ce décalage entre ce que l'on est et ce que l'on avait le droit de faire jusque-là, on était un peu coincé sur des choses que l'on pratique.
C'est-à-dire que ça impliquait un ralentissement pour le patient dans son parcours de soins. Aujourd'hui, on peut aller plus vite et donc être plus efficace. Ce qui veut dire quoi, Thierry Amourou, que jusqu'à présent, les infirmières et infirmiers, vous étiez sous-employés?
On était bridés. Il y avait un décalage. Les textes qui nous ont rédigés datent de 2004, donc on avait 20 ans de retard par rapport aux pratiques médicales, alors que nous avons eu une formation, par exemple, sur le plaie cicatrisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on voyait un problème chez un patient, au lieu de le traiter directement, ce pour quoi on a été formé, on était obligé de renvoyer sur une consultation médicale pour attester de ce que l'on avait vu. Donc c'est un peu une aberration.
Donc attendre d'avoir un rendez-vous, de solutionner la question des déserts médicaux, et suivez mon regard, on s'en sort pas. Alors est-ce que ce décret va assez loin, Thierry Amourou? Est-ce qu'on aurait pu encore élargir un peu plus vos missions?
Non, ça correspond bien aux attentes et à ce qui se pratique dans les autres pays, en particulier en termes de prévention et de santé publique, parce que c'est pas le tout d'intervenir une fois que le problème a été identifié. Si on peut traiter la cause avant, c'est quand même mieux. Et on a un grand retard de prévention en France par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est une vraie avancée.
Et qu'est-ce qui reste de la prérogative du médecin aujourd'hui?
Ah ben, tous les diagnostics médicaux. Les diagnostics infirmiers sont différents. C'est plus sur les plaies cicatrisation, sur
c'est quoi, prévention. Expliquez-moi, c'est quoi ce qu'on appelle un diagnostic infirmier? Vous allez diagnostiquer quoi?
Alors, ben, par exemple, si on constate un ulcère de jambe, eh bien, on va pouvoir intervenir directement, alors qu'aujourd'hui, il fallait passer par une consultation médicale. On va pas faire de diagnostic de grosses pathologies, etc. On est là pour les problèmes de santé qui correspondent déjà à ce que l'on sait faire.
Alors, on le fait, ça, j'entends aussi complètement ce que vous expliquez, c'est-à-dire que vous êtes formé pour ces soins-là. Mais est-ce qu'on ne crée pas un flou, finalement, entre vous et les médecins? Est-ce qu'il y a un risque de se marcher dessus, de se contredire même parfois?
Pas du tout. Je vous donne un autre exemple par rapport aux médicaments. Moi, je suis hospitalier et un patient hospitalisé, on lui demande de ne pas venir avec son traitement personnel. Et si au cours de son hospitalisation, il devient algique,
il devient quoi, pardon?
Il devient algique. Il est douloureux.
D'accord.
Si je suis de nuit ou de week-end et que j'ai pas de prescription médicale, je vais devoir biper l'interne de garde de l'hôpital.
Oui.
Qui va m'appeler tout de suite pour voir quel est le problème. Et quand je vais lui dire que c'est pour un doliprane, du paracétamol, elle me dire bon, ben, t'es gentil, mais il faut que je traite 5-6 urgences avant de venir pour ce problème basique.
Ben et oui. Donc, pendant ce temps-là, vous pourrez intervenir directement. C'est donc aussi ce gain de temps, enfin, d'efficacité, tout simplement, dans le système, y compris hospitalier, si je vous suis bien, Thierry Amouroux.
Oui.
Est-ce que c'est une solution d'avenir? Je veux dire, la question des déserts médicaux, on en parle assez régulièrement pour savoir qu'on manque de médecins. On sait aussi que vous pourriez avoir un rôle à jouer face au vieillissement de la population. Je veux dire, à l'avenir, il faut que les infirmiers et infirmières soient dans les starting blocks.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a, vous avez 140 000 infirmières libérales. Et ce sont les dernières professionnelles de santé à aller au domicile des patients, donc on peut identifier beaucoup plus facilement des problèmes bien avant qu'ils se déclarent en maladie. Et donc c'est une vraie avancée parce que des infirmières, ben il y en a sur tout le territoire. Et donc ben c'est du temps gagné et du temps clinique de gagner. C'est-à-dire que ça peut permettre de gagner, d'éviter des passages aux urgences si c'est des petites choses que nous on peut traiter sur le terrain. Voilà. Et c'est aussi la capacité d'orientation. Par exemple, vous avez une infirmière scolaire qui voit un élève qui a un problème de vue, d'audition. On va pouvoir orienter directement vers le professionnel concerné.
Et pourquoi elle le faisait pas avant?
Aux parents de prendre rendez-vous avec le médecin pour.
Bah elle le faisait déjà, Thierry Amouroux, ça, non?
Comment?
Elle le faisait déjà, ça, l'infirmière de. Vous parliez des infirmières scolaires, là?
Alors, l'infirmière scolaire signale le problème à la famille en demandant à la famille de prendre rendez-vous avec un médecin pour que le médecin fasse une ordonnance pour contacter le professionnel de santé concerné, orthoptiste, orthophoniste.
Là, on pourra aller directement chez le spécialiste en passant par l'infirmière, si je vous suis.
Voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit élargi aussi à d'autres professions médicales, d'autres que les infirmiers? Je pense aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture, par exemple.
Alors, c'est pas le même niveau de formation.
Une infirmière, de qualification, non, on est d'accord.
Une infirmière, elle a une licence, elle est formée en 3 ans après le bac. Une aide-soignante est formée en 10 mois.
Non, mais j'entends bien, mais face aux besoins, face à certains soins qu'on peut appliquer sur ce gain de temps, vous êtes plutôt réservé sur cette question-là, si j'ai bien compris votre réponse.
C'est par rapport à la formation, c'est-à-dire que.
Non, bien sûr, mais oui, mais si on allait par là, vous êtes aussi moins formé que les médecins, a priori, Thierry Amouroux.
Bien sûr, mais on ne va pas remplacer des médecins.
On va les compléter.
On va pouvoir faire ce pour quoi on a été formé, ce pour lesquels, au niveau international, on a toutes les compétences reconnues depuis la nuit des temps.
Et c'est ce qui fait que ça se rapproche d'autres pays, des pays voisins notamment. Alors, est-ce que, une dernière question quand même, on va passer à la caisse, Thierry Amouroux, est-ce que plus de missions, ça signifie aussi plus d'argent? Alors, plus de revenus, bien entendu, s'il y a plus d'actes, ça, on peut le comprendre, mais face aux responsabilités aussi, est-ce que vous appelez à une revalorisation de vos actes?
Alors, c'est prévu. La loi a prévu une revalorisation à la fois des infirmières salariées et des actes des infirmières libérales. Ça va faire l'objet d'autres discussions et d'autres textes. Mais il faut bien comprendre que les infirmières en France sont sous-payées, moins 10% sous le salaire infirmier européen. Donc, il y a un vrai retard. Les infirmières libérales n'ont pas été revalorisées depuis une quinzaine d'années.
Il y a un vrai sujet sur la rémunération, mais si j'ai bien compris, ce sera l'objet de négociations à suivre. Et on suivra. Thierry Amouroux, merci beaucoup. J'attends d'ailleurs les appels d'infirmiers et infirmières libéraux, hospitaliers. Vous témoignez ce matin au 32-16 sur cette information. Merci Thierry Amouroux d'avoir réagi, décrypté surtout cette information pour nos auditeurs. Vous êtes porte-parole du Syndicat National des Infirmiers. Il est 7h21 sur RMC et dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui va nous rappeler la très longue histoire du baiser. On compte ça en millions d'années, figurez-vous. Puis je vous attends au 32-16 d'RMC. Ne bougez pas, on se retrouve dans un peu plus de 60 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC, RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est tous les jours avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui nous parle ce matin du premier baiser de l'histoire.
On révise les classiques.
Arthur, Carlos évidemment. D'après des scientifiques de l'université d'Oxford, le baiser sur la bouche se pratiquait déjà il y a 2 100 000 années. Et pour vous s'embrasser, c'est la raison d'être de l'humanité.
Et oui, cette étude en est la preuve, hein, puisqu'elle montre que l'ancêtre commun de l'homme et du grand singe pratiquait déjà le baiser sur la bouche. S'embrasser, ça a toujours symbolisé ce que l'homme a de meilleur en lui, l'amitié, la loyauté et bien sûr l'amour.
Et avant cette étude, on ne savait pas depuis quand le baiser existait.
Si, mais on pensait que c'était beaucoup plus récent. On a des fresques égyptiennes d'il y a 4000 ans où on voit des gens se faire des bisous, donc a priori, c'est que c'était déjà agréable. Et sous l'Empire romain, ça va devenir un acte très politique. À Rome, vous embrassiez sur la bouche les gens qui faisaient partie de votre famille, mais aussi les gens qui appartenaient à la même classe sociale que vous. Donc par exemple, si vous étiez sénateur, vous embrassiez tous les sénateurs que vous croisiez dans la rue.
Et comment ça va évoluer ?
Alors au Moyen-Âge, clairement, ça se calme un peu, mais le baiser ne disparaît pas. C'est toujours un peu politique, puisque c'était un acte qui symbolisait la loyauté, la fidélité, et ça se pratiquait dans les ordres religieux. Prenez par exemple l'ordre des Templiers, c'était un ordre de moines soldats. Quand vous entriez dans cet ordre, il y avait un rituel d'admission. Il fallait se déshabiller et une fois nu, tous les autres membres de l'ordre venaient vous faire des bisous, mais pas dans n'importe quel ordre. D'abord sur les fesses, ensuite sur la bouche et enfin sur le nombril. Et là, vous étiez admis.
J'aurais pas choisi cet ordre-là. Mais bon, quand est-ce qu'on commence à avoir une connotation sexuelle autour du bisou ?
Alors, ça commence à partir du 18e siècle. Hein, le 18e, c'est le siècle de la galanterie, du libertinage. Maintenant, quand on s'embrasse sur la bouche, c'est évidemment pour devenir amant. C'est aussi à cette époque que le mot « baiser » prend un autre sens que Mathieu, je n'ai pas besoin de vous expliquer.
Alors le baiser deviendra aussi un symbole, évidemment, du cinéma.
Bah bien sûr, un des tout premiers films réalisés, ça s'appelait d'ailleurs The Kiss, hein, le bisou en anglais. Ça date de 1896, c'était réalisé d'ailleurs par les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Alors c'était un film très court, hein, à peine une minute, et la dernière séquence, c'était un baiser entre deux amants, le tout premier baiser du cinéma, Mathieu.
The Kiss, et après on a parlé de French Kiss.
Oui, les Américains ont inventé cette expression puisque pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains sont venus en France pour faire la guerre et ils vont découvrir les Françaises. Et au moment de les embrasser, ces Françaises, surprise, elles mettent la langue, ce qui évidemment ne se pratiquait pas du tout aux États-Unis. Donc, quand les soldats sont rentrés en Amérique, ils ont exporté la pratique et ils lui ont donné le nom de son pays d'origine, le French Kiss.
Mais c'est si récent que ça, en fait, ça a vraiment c'est le débarquement, ouais. Quoi. C'est...
Ouais, ouais,
ouais. Le French Kiss.
La pro, oui, oui.
Et le baiser de cinéma, évidemment, mythique. 7h25, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur l'application RMC. Allez, on file tout de suite au 32-16, retrouver Fadela, qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Fadela.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes infirmière libérale. On va parler de votre métier et de ses nouvelles prérogatives, mais vous bossez là cette semaine, Fadela ?
Là, je suis en tournée, ouais.
Là, vous êtes en tournée. On est le 29 décembre et vous êtes sur le pont.
Oui.
Ben, merci beaucoup. Merci pour vos patients. Il y a des patients qui vous attendent. Alors, l'émission des infirmiers étendue, vous allez pouvoir prescrire, vous allez pouvoir poser un diagnostic infirmier. Fadela, vous dites non, c'était pas la priorité que d'élargir les responsabilités des infirmiers.
Non. Alors, à mes yeux, non. Je suis infirmière depuis 25 ans. En libéral depuis 5 ans. Et à mes yeux, la priorité, mais vraiment, hein, parce qu'on nous a déjà ajouté des compétences, entre guillemets, des missions. On nous demande aussi de faire des certificats de décès pour lesquels on a eu des formations, etc. Moi, j'ai refusé, parce que je ne suis pas là pour faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Et je suis assez réac par rapport à cet élargissement du champ de compétences parce que, comme je disais hier à ma fille quand on l'a vue à la télé, ben, ça ne remplit pas le frigo et ça ne paie pas les charges.
Ah ben vous avez entendu votre porte-parole, Thierry Mourou disait à l'instant, c'est prévu la revalorisation. Alors je n'ai pas le montant, hein, elle doit être négociée maintenant, Fadela. Mais effectivement, vous n'avez pas été augmentée depuis combien de temps, Fadela ?
2009. En libéral, 2009. L'acte, l'AMI, c'est une cotation de l'acte. Il est à 3,15 €. C'est-à-dire que quand on fait une injection, c'est 3,15 €.
Alors, quand vous faites une injection, c'est-à-dire que vous, Fadela, quand vous vous déplacez chez quelqu'un pour faire une injection, c'est pour 3,15 €.
C'est ça. Il y a le déplacement qui est à 2 €.
D'accord.
Et quelqu'un. Voilà.
D'accord. Et, non, mais il y a urgence à revaloriser, ça c'est ce qu'on disait à l'instant, vous l'avez entendu, hein, je pense, Fadela, avec Thierry Amourou, sur la revalorisation des actes. Mais en revanche, sur les responsabilités, en imaginant qu'on vous revalorise comme vous devriez l'être, Fadela, sur ces responsabilités-là, vous ne vous les sentez pas? C'est pas votre métier, vous avez dit sur les certificats de décès, par exemple, ce qui est une chose un peu particulière, j'imagine.
On a déjà un champ de compétences assez large.
Non, mais les vaccins, les prescriptions, on gagne pas du temps par rapport à cette problématique des déserts médicaux dont on parle si souvent?
Alors, franchement, le désert médical, il y est, en Ariège, dans le bassin du Comminges, là où j'ai mon cabinet, il y est. Mais après, c'est pas à l'infirmière de suyer les plâtres d'un mal calcul depuis 30 ans.
D'une mauvaise organisation du système de santé. C'est pas aux infirmiers d'essuyer les plâtres. Merci Fadela d'avoir réagi. L'urgence, c'est la revalorisation des actes. Alors, Thierry Amourou l'a dit, hein, ça fait partie, c'est prévu. Reste à savoir de combien. C'est à négocier encore. Mais merci Fadela d'avoir témoigné avec précision depuis l'Ariège ce matin, infirmière libérale depuis 25 ans. Si j'ai bien retenu ce que m'a dit Fadela en début d'intervention, libérale depuis 5 ans, vous témoignez, vous réagissez d'accord ou pas avec elle. Vous serez les bienvenus au 32-16. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et puis juste après, on va passer un petit coup de fil à Paulin Reynard. C'est le directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Si vous ne connaissez pas, c'est le Puy du Fou provençal. Il a été dégradé ce week-end, des milliers d'euros de dégâts. Puis à 7h40, l'invité d'Apolline Matin.
Sur la plage abandonnée.
Les animaux, c'était le combat, vous le savez, de Brigitte Bardot. Le combat de sa vie. Notre invité, c'est la directrice des affaires publiques de la puissante fondation Brigitte Bardot. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'impunité pour les voleurs d'identité, c'est une information RMC. Seulement 4200 condamnations pour usurpation ont été prononcées l'an dernier, alors que l'on compte plus de 200 000 victimes. Vous entendrez l'une d'elles dès le début de ce journal. Une pluie d'hommages pour Brigitte Bardot, décédée hier à l'âge de 91 ans, mais pas celui des féministes qui regrettent les prises de position de l'actrice pendant le mouvement MeToo. Et puis Donald Trump, fanfaronne à l'issue de sa rencontre avec son homologue ukrainien, mais n'annonce toujours rien de concret pour un accord de paix avec la Russie.
Alors c'est un fléau qui prend de l'ampleur mais qu'on a encore bien du mal à punir.
L'usurpation d'identité fait en France plus de 200 000 victimes chaque année et pourtant ces auteurs sont très rarement inquiétés. La preuve l'an dernier, et c'est une information qu'RMC vous révèle ce matin, seuls 4200 cas d'usurpation ont donné lieu à une condamnation, chiffre du ministère de la Justice. Et pour cause, il est très difficile de traquer ces voleurs d'identité. Ce retraité normand a rencontré par Julie Libro le constate chaque jour depuis plus d'un an.
Depuis novembre 2024, Christian, 72 ans, a été enregistré à son insu comme le gérant d'une société automobile. Des malfaiteurs ont acheté plus de 3000 voitures, toutes immatriculées à son nom. Le retraité normand reçoit depuis des PV presque tous les jours.
Ce matin, c'est une petite journée, j'ai eu que 14 PV. Mais en général, c'est entre 30 et 40. Beaucoup de stationnements dans Paris, par exemple, des excès de vitesse dans les quatre coins de la France, en Belgique, en Allemagne, de partout.
Près de 600 amendes au total pour lesquelles le retraité porte plainte systématiquement. Mais faute d'un service centralisé, les finances publiques prélèvent de l'argent directement sur son compte bancaire.
Vous écrivez, personne ne vous répond. Vous téléphonez, c'est une plateforme qui tourne en rond. Personne aujourd'hui n'a de solution.
L'enquête, elle, n'a toujours pas permis d'identifier les malfaiteurs qui opèrent parfois depuis l'étranger, assure une source policière avant de déplorer le manque de moyens d'investigation. Et selon nos informations, 4208 condamnations pour usurpation d'identité ont été prononcées l'année dernière, un chiffre bien en deçà des quelques 200 000 victimes touchées.
Et nous serons avec Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale à 8h10. Alors les bons conseils pour éviter de se faire usurper son identité, et puis surtout le constat, 4000 condamnations, 200 000 victimes. Vous, peut-être, parmi ces 200 000 victimes, vous témoignez au 32-16, n'hésitez surtout pas.
Il est 7h32 sur RMC et elle aura laissé une trace indélébile sur le cinéma français. Pour la cause animale aussi, nous pleurons une légende du siècle, a écrit Emmanuel Macron hier, pour rendre hommage à Brigitte Bardot qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans dans sa célèbre résidence de la Madrague à Saint-Tropez. Une icône qui a bousculé les codes, mais dont les prises de position au fil de sa vie ont aussi choqué Régine Chalralèche.
À l'écran, Brigitte Bardot incarne une femme sensuelle, libre et audacieuse. Une rupture dans le cinéma des années 60, selon le photographe Henri-Jean Servat, qui fut aussi son ami.
Tous les films de Bardot, c'est elle l'héroïne qui est la vedette du film, c'est pas un homme. Et Brigitte, ce qu'elle a fait, elle a mis la femme au centre du jeu, au centre des films. Et les personnages qui étaient écrits à l'écran ont montré des femmes qui se battaient pour exister et qui étaient plus simplement les jouets des hommes. C'est ça que Brigitte a apporté.
Première star à servir de modèle pour le buste de Marianne en 1970, elle soutient et défend le droit à l'avortement quelques années plus tard. Toutefois, ses prises de position lors du mouvement MeToo ont indigné les mouvements féministes, souligne Iseline Fourtic, avocate et coprésidente d'Ensemble contre le sexisme.
Elle a soutenu Gérard Depardieu, elle a soutenu Nicolas Bedos et elle n'a jamais été dans le soutien de la parole des femmes et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
La star fidèle à son franc-parler assurait d'ailleurs dans une récente interview à BFM TV « Le féminisme, c'est pas mon truc ».
Et l'actrice avait également été condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale.
Et son profil, on en parle ce matin. Que retiendrez-vous, vous, ce matin de Brigitte Bardot? Vous nous le dites au 32-16. On va parler de tous ces aspects-là, bien entendu, tout au long de la matinée et de son engagement pour la cause animale. Évidemment, vous le connaissez. On sera avec la directrice des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot juste après ce journal. Mais vous n'hésitez pas à témoigner au 32-16.
7h34, rien ne semble entacher son optimisme. Donald Trump se montre toujours aussi confiant après son entrevue cette nuit avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a reçu dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. C'est là que l'on retrouve l'envoyé spécial d'RMC et de BFM TV, Naoufel Elkaoui. Naoufel, le président des États-Unis assure qu'il n'a jamais été aussi proche de décrocher un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.
Donald Trump et Volodymyr Zelensky parlent d'une réunion fructueuse avec de nombreux progrès. Un plan en 20 points, approuvé à 90% par les États-Unis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret. Et surtout, il reste encore des points de blocage, notamment concernant la question territoriale et celle du contrôle du Donbass. Le président américain expliquait que c'était encore complexe et que le problème n'avait pas été résolu. À l'issue de cette rencontre, une visioconférence d'une heure avec plusieurs dirigeants européens a été organisée en présence d'Emmanuel Macron. Des dirigeants européens qui sont attendus à Washington début janvier avec Volodymyr Zelensky pour poursuivre ces négociations dans l'espoir d'un accord de paix.
Emmanuel Macron a de son côté annoncé une réunion des alliés à Paris début janvier. Donald Trump, lui, est sur tous les fronts. Il poursuit ses consultations aujourd'hui. Il recevra le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de l'avenir de la trêve à Gaza. Il est 7h36 sur RMC et le Stade Toulousain est en tête du top 14 ce matin à l'issue de la 13e journée hier. Et après sa victoire écrasante 60-14 face à La Rochelle, une belle manière de terminer l'année pour les Toulousains. Toulousains qui sont à mi-parcours très haut au-dessus du lot, Wilfried Templier.
Oui, le Stade Toulousain domine encore et toujours ce top 14, triple champion de France en titre. Les Toulousains ont surclassé La Rochelle et sont favoris à leur succession, au plus grand plaisir du demi-mêlé Antoine Dupont.
Quand on a envie de se faire jouer les uns les autres, envie de bosser les uns pour les autres, avec la qualité du groupe qu'il y a, ça donne des résultats comme on a là et je pense que ça montre aussi l'ambition qu'on a sur cette fin de saison.
À l'inverse, la déception vient du dernier finaliste du top 14 et champion d'Europe, l'Union Bordeaux-Bègles, à la traîne à 13 points du leader toulousain. Le deuxième ligne Boris Palus sait qu'il en manque.
Je pense que c'est pas assez. On traîne le début de saison à l'extérieur, je pense qu'il n'a pas été bon. Et surtout, on traîne cette défaite à la maison contre Pau, je pense qu'il a fait mal.
Enfin, en bas de tableau, la deuxième partie de saison devra dire qui, de Montauban ou Perpignan, deux points d'écart entre les deux, descendra directement en Pro D2 avec un électrique duel entre ces mal classés dès le samedi 24 janvier au stade Aimé Giral de Perpignan.
À la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a validé son ticket pour les huitièmes de finale en battant le Burkina Faso 1-0. Ce soir, c'est au tour du Maroc d'essayer de décrocher sa place face à la Zambie. Match à 20h à vivre évidemment sur RMC.
Et puis il y a le Quintet, Élise. C'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Avec le prono de la Dream Team des courses RMC, le favori aujourd'hui, c'est le numéro 2, Style d'Emir. L'outsider, c'est le 16, Dixan, c'est Nora.
Merci beaucoup, Élise Dangean. C'était le journal de 7h30. Et on part tout de suite à la Barbenne, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Paul Arénard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral, un parc implanté, je le décris hein, pour ceux qui ne connaissent pas, autour d'un château millénaire. Et ce week-end, ce lieu classé a été dégradé, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Racontez-nous.
Écoutez, nous sommes absolument scandalisés. Notre gardien s'est rendu compte dans la nuit de samedi à dimanche que nous, plusieurs personnes se sont introduites d'une manière évidemment illicite dans le château, ont tagué quelques murs du château et ont déversé de l'essence avec la volonté de vouloir mettre le feu au château. Il a pu heureusement les surprendre avant que l'incendie ne puisse être déclenché pour sécuriser la zone. Voilà.
Alors, vous y parliez de tag. Alors, on voit des symboles anarchistes, hein, le A entouré d'un cercle. Vous parliez d'essence, et ça, j'imagine que vous avez eu très peur pour le château, hein, qui est là depuis près de 1000 ans quand même.
Exactement, nous parlons du plus ancien château de Provence qui est entièrement meublé, qui est un monument qui est classé monument historique. C'est un acte qui est absolument insupportable de savoir que l'on veut s'attaquer à un château millénaire qui aurait pu partir en fumée avec des personnes dedans, tout cela en plein milieu.
Vous pensez que le projet c'était de provoquer un incendie?
Bah écoutez, je pense que l'on ne déverse pas de l'essence simplement pour agrémenter l'odeur d'un château.
Vous aviez déjà fait l'objet de menaces, Paulin Reynard?
Oui, depuis que le rachat par Vianney d'Alençon du château et la création du Rocher Mistral, le château a subi plusieurs attaques, particulièrement ciblées par l'ultra-gauche. Mais jamais on ne s'était encore attaqué au monument avec la volonté de l'incendie.
Oui, alors il y a des questions très politiques hein, qui se posent entre des opposants et votre parc. Je voyais un historien cité par Libération qui parle d'un parc royaliste et catholique. Donc vous citez l'ultra-gauche. Mais aujourd'hui, Paulin Reynard, pour rester sur les faits, on est incapable d'identifier hein, les auteurs de ces dégradations.
Écoutez, on est incapable parce qu'on ne les a pas arrêtés. Néanmoins, nous avions déjà par le passé rencontré ce même type de tag anarchiste à l'extérieur du château qui avait été revendiqué par des groupuscules d'ultra-gauche. Donc je crois que le lien est rapidement établi. Ce qui est absolument certain, c'est que aujourd'hui, s'attaquer à un bâtiment même au-delà du projet, c'est une sorte
de... Oui, vous dites au-delà du parc à thème, il y a un château millénaire qui était menacé ce week-end. Et je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous décrire la situation, nous dire votre inquiétude aussi, Paulin Reynard, ces tags et surtout cette essence aspergée. Hein. On peut s'imaginer aisément le pire. Merci Paulin Reynard, directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral, d'avoir pris quelques minutes ce matin en direct sur RMC. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et on repart tout de suite au 32-16, retrouver Jean-Louis qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour.
Vous êtes infirmier libéral et vous réagissiez à cette info qu'on développe ce matin. Vous allez avoir plus de travail. Vous allez pouvoir prescrire, vous allez pouvoir établir un diagnostic infirmier, vous allez pouvoir vacciner les infirmiers et infirmières de France. On pallie ainsi hein, les déserts médicaux. Jean-Louis, vous dites que ben finalement, ces activités, vous en aviez déjà beaucoup, vous avez déjà élargi vos compétences.
Absolument. Là, ce que je trouve que le gouvernement va faire, il va juste légaliser le fait qu'on faisait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que je voudrais souligner, d'un côté, on a les pharmaciens qui vaccinent, qui font beaucoup de soins qu'on faisait nous. Et de l'autre côté, on va nous demander de faire des choses qui vont permettre de ne pas aller voir le médecin, d'avoir un raccourci dans la prise en charge, en fait gagner du temps, Mais est-ce que c'est la solution?
Je vous pose la question, est-ce que c'est la solution?
La solution, c'est déjà d'augmenter le nombre de candidats à cette profession, de favoriser les 3 années d'études, qu'on soit pas obligé de travailler en même temps et de d'étudier. Voilà, c'est facile.
On va avoir besoin. Clairement, on va avoir besoin de vous. Hein. Vous êtes en train de le souligner. La multiplication des déserts médicaux, ça c'est une réalité, mais il y a aussi le vieillissement de la population et ça on l'a évoqué avec le porte-parole des infirmiers tout à l'heure. Et j'oublie pas la revalorisation, hein, puisque c'est revenu aussi dans le témoignage de Fadela, Jean-Louis.
Ça, la revalorisation arrive toujours en dernier, et quelquefois c'est des petites miettes.
Oui, donc, résultat, vous attendez depuis 2009. J'ai bien compris l'enjeu, il y a une négociation qui arrive, et on la suivra, croyez-moi, hein, Jean-Louis, on suivra justement comment sera revalorisé l'acte infirmier. Merci mille fois d'avoir pris la parole ce matin, infirmier, infirmière, vous continuez à réagir et à témoigner, vous serez en direct avec nous sur RMC, 7h43. Dans un instant, les animaux, le combat de la vie de Brigitte Bardot.
Tu es méchant.
Bonjour Adriana Ansaya Negro.
Bonjour Maxime.
Soyez la bienvenue, vous êtes la directrice des affaires publiques de la puissante et célèbre désormais fondation Brigitte Bardot. Les grands combats, les grandes victoires aussi. Et maintenant, comment vous allez poursuivre finalement ce qui est l'œuvre de la vie de Brigitte Bardot? On se retrouve dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h45 sur RMC, RMC Story. Bon réveil à l'écoute d'RMC.
Moi je joue contre vous.
Brigitte Bardot s'est éteinte hier à l'âge de 91 ans. Et si on revient sur toute sa carrière, sur ses engagements, sur ses prises de parole, sur ses coups de gueule, sur ce qu'elle incarne en France et à l'international ce matin, on va quand même prendre le temps de s'arrêter sur ce qui a été le grand combat de sa vie, la défense des animaux. Bonjour Adriana Orancea Negro.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la directrice des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot. Vous savez ce qu'on va faire? On va d'abord retrouver Pierre Bourgès, qui est envoyé spécial d'RMC à Saint-Tropez ce matin. Bonjour Pierre, l'émotion toujours vive sur place dans le Var.
Oui, bonjour Mathieu, vive émotion. Ici, je me trouve devant la statue de Brigitte Bardot. Ici, on est en plein centre de Saint-Tropez. Et depuis hier, les habitants et les fans viennent se recueillir devant cette statue. Ils parlent tous d'une icône mondiale, d'une femme qui a représenté la France à l'international. Certains habitants ont même du mal à réaliser encore ce qu'il se passe. On l'a pensé immortelle, m'explique une femme que j'ai rencontrée ce matin et qui est venue se recueillir. Et ce matin, d'ailleurs, on peut voir aussi des dizaines de fleurs déposées au pied de la statue. Il y a des peluches et un mot dont je vous lis une partie. Bébé, nous te serons toujours reconnaissants envers ton combat. Ici, le combat dont il est question dans cette lettre, c'est évidemment celui pour la protection des animaux.
Merci beaucoup Pierre Bourgès, envoyé spécial d'RMC à Saint-Tropez. Et ça revient très rapidement quand on parle de Brigitte Bardot. Bien sûr, on parle de cinéma, de chansons, bien sûr, on parle de glamour, mais on parle de la Fondation Brigitte Bardot, de la cause animale. Elle y a consacré la majeure partie de sa vie. Le combat continue?
Oui, bien sûr, le combat continue, comme elle le voulait. D'ailleurs, elle disait toujours, si vous voulez retenir quelque chose de moi, mon héritage, et quelque part me rendre hommage, c'est de continuer le combat. Puisque grâce à sa fondation, elle a obtenu beaucoup de victoires, mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à obtenir. On a 12 000 animaux sous notre responsabilité. Nous sommes une grosse structure, 300 salariés, et 12 000 animaux sous notre responsabilité actuellement, mais encore d'autres animaux à secourir.
Et là, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque évident. Et puis ces questions de bien-être animal, elles se sont imposées dans l'actualité parfois. Mais à l'époque, elle a converti de nombreux Français à ce combat-là.
Oui, tout à fait. Elle a été pionnière. C'est le terme qui revient souvent, mais elle l'a véritablement été, puisqu'elle a pris la parole à une époque où les gens moquaient le sujet. Et d'ailleurs, elle a été moquée, mais elle s'en fichait complètement. Voilà, elle était libre, comme le terme revient souvent, mais elle était libre au service de la cause qui lui tenait le plus à cœur. Et elle a mis en avant cette grosse injustice envers les animaux.
Et en fait, il y a un bilan, ce que l'on découvre un peu. On sait son engagement, on sait le travail que vous faites au quotidien à la Fondation Brigitte Bardot. On sait un peu moins le bilan de Brigitte Bardot. La condamnation de la zoophilie, la protection des phoques, bien entendu, l'interdiction du commerce des peaux, la protection des ours, l'interdiction du commerce de l'ivoire, j'ai découvert ça, les crash tests auto sur des animaux. On faisait ça à une époque, a priori, pour tester la solidité des véhicules. L'étourdissement préalable des animaux de boucherie à l'exception de l'abattage rituel. Dès 1962, elle est déjà en train de militer sur ces questions-là.
Oui, elle est venue avec le pistolet pour montrer ce que c'était. Et c'est elle qui a mis le sujet sur la table. Et d'ailleurs, dans un reportage, on la voit dire, puisque personne ne vient parler de ce qui se passe dans les abattoirs, elle était très très jeune, elle a dit, puisque personne ne le fait, je vais le faire.
Elle a 28 ans à ce moment-là.
Voilà. Et 10 ans après, elle a arrêté sa carrière pour se consacrer complètement aux animaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres victoires. La fin des ours dansants, la participation de la Fondation Brigitte Bardot dans l'élaboration de la loi du 30 novembre 2021. Voilà, avec l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques qui va entrer en vigueur au 1er décembre 2028.
Voilà, ça c'est du concret, c'est du bilan.
Ça c'est du concret.
C'est ce qu'il fallait souligner aussi. Alors après, on a en souvenir les images de ces reportages de Brigitte Bardot sur la banquise pour défendre les bébés phoques. Ce que dit cette image de Brigitte Bardot avec des bébés phoques, c'est qu'elle a mis justement sa notoriété, son image à elle, son côté star immense international au profit des animaux.
Oui, tout à fait. Et ça a permis, en fait, son énorme notoriété a permis d'atteindre un public très, très large. Ce qui n'était pas possible avant aux autres militants de la cause animale, on va dire. Donc, elle a atteint un public très, très large. Elle a permis d'éveiller les consciences. Elle n'a pas réussi à, entre guillemets, à convertir tout le monde, puisque je reprends le terme que vous aviez utilisé au début. Mais elle a éveillé les consciences. Et ça, c'est très important. Elle a fait évoluer les lois, mais elle a fait évoluer aussi les mentalités. Et on a encore beaucoup de combats à gagner. Voilà les trois combats importants qui comptaient pour elle. Elle avait dit l'abolition de la chasse à cour, de la corrida et la fin de l'hypophagie, la consommation de viande de cheval. Donc ça, c'était trois combats essentiels pour elle. Elle avait écrit un courrier à Emmanuel Macron il y a quelques mois.
Elle lui avait envoyé un sonotone.
Oui, à lui et à 49
autres. Pour pas qu'il reste sourd.
Voilà, il y a 49 autres personnages de l'État.
Pour la chasse à cour.
Voilà, à ce sujet, mais sur la corrida également, parce qu'elle a dit « Je crie depuis 50 ans, j'en ai marre de crier », avec son franc-parler habituel. Et on a reçu une réponse d'Emmanuel Macron. Bien sûr, pas à la hauteur des espérances de bébé, mais on travaille sur tous ces sujets, on va continuer, il y a encore beaucoup à faire. Parfois, elle était lasse de ne pas remporter des victoires aussi vite qu'elle l'aurait voulu. Impatiente, mais voilà, le sujet des animaleries, si je peux en parler ici. Mais,
allons-y, d'un mot, ce sera le dernier.
Voilà, les animaleries, c'était quelque chose qui était prévu dans la loi du 30 novembre 2021, la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie au 1er janvier 2024. Et en fait, ça ne s'est pas fait, parce que les ventes continuent, mais en sous-sol, avec le click and collect. Et le ministère de l'Agriculture n'aide pas du tout sur ce plan-là.
Il y a des combats encore, vous avez du travail.
Oui,
vous avez du travail, Adriana Anseanegro,
oui,
merci beaucoup.
Merci
vous êtes la directrice
beaucoup.
Des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot. Ces combats, ces engagements de Brigitte Bardot, elle vous a sensibilisé à la cause animale à une époque où peut en parler. Eh ben, vous n'hésitez pas à vous témoigner au 32-16 ce matin de ce travail qui reste à faire aussi pour la Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Ce matin.
Merci beaucoup.
Retenons qu'elle s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Elle a arrêté le cinéma à 39. C'est l'essentiel de sa carrière.
Tout à fait.
La Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Il est 7h51 sur RMC. Et dans un instant, Bérangère Bocquillon qui nous a rejoint. Bonjour Bérangère.
Bonjour Mathieu.
Vous allez passer cette semaine de fête avec nous, Bérangère.
Oui, je vais vous parler des traditions.
On va explorer les traditions.
Voilà, c'est ça, toutes les traditions du Nouvel An. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour un réveillon top niveau.
Pour ceux qui organisent, montez le son. Pour les autres, vous pourrez évaluer comme ça vos hôtes grâce à Bérangère Bocquillon. 7h52, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, les traditions du Nouvel An à suivre dans quelques secondes. Mais d'abord, le bonus RMC Martin avec Jean-Jacques Goldman, toujours au top.
Et ça dure depuis 9 ans maintenant. Jean-Jacques Goldman encore et toujours personnalité préférée des Français. Plus de 40% des personnes interrogées par le traditionnel baromètre IFOP place le chanteur de 74 ans en tête. Et globalement, on adore en France les chanteurs un peu à l'ancienne, puisque derrière Jean-Jacques Goldman... C'est Florent Pagny qui arrive deuxième, deux places de mieux que l'an dernier, et il devance un autre chanteur.
Mais ça continue encore et encore.
Francis Cabrel qui complète le podium. On trouve deux autres chanteurs dans le top 10, Soprano et Michel Sardou, la première femme. C'est Sophie Marceau, sixième, deux personnalités politiques, Bardella, 12e, Marine Le Pen, 23e, mais tout ce petit monde reste quand même assez loin derrière Goldman, alors qu'il n'est plus apparu sur un plateau télé depuis 2016.
Je te donne.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54. Vous êtes levé tôt ce matin. Vous êtes peut-être dans les préparatifs déjà de ce que vous allez organiser pour le 31 au soir cette semaine à 7h50. On va vous parler des traditions du Nouvel An. Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
Alors, il y a le réveillon, bien sûr, mais aussi les vœux. Et puis ce week-end, on évoquera avant le week-end la galette des rois, bien entendu. Bref, Bérangère, vous allez nous détailler ces traditions. Aujourd'hui, vous parlez de la soirée du réveillon qui le plus souvent se passe à la maison.
Ouais, vous savez que le réveillon du Nouvel An, c'est la deuxième fête la plus suivie par les Français après Noël. Et en général, on fête le 31 à domicile, chez soi, chez des amis ou plus rarement dans la famille. J'ai interrogé pas mal de monde et pour certains, le réveillon, ça reste un peu galère.
C'est un peu compliqué, soit un dîner avec des amis, soit chez moi. Mais mes parents vont sans doute être chez moi, donc je vais devoir switcher. En vieillissant, on fait des dîners. Des dîners où on est plusieurs et on discute et on boit du bon vin.
Je vais chez des amis à la campagne et on sera une quinzaine et chacun apporte quelque chose. On s'embrasse sous le gui et on se souhaite une bonne année.
Cette année, on n'est que quatre. Chacun va préparer quelque chose. Je sais que moi, je suis service de l'entrée, par exemple. On cuisine. On essaye de cuisiner.
On se partage les tâches. Moi, j'apporte un foie gras. Tu vas apporter une volaille. Tu vas apporter le fromage.
On mange, on danse, on joue, on boit aussi.
Bon, je note que plusieurs ont parlé de boire avec modération, bien entendu.
Mais oui, bien sûr. Mais surtout, ils racontent tous que le soir du réveillon, chacun apporte quelque chose. Parce que le réveillon du Nouvel An, c'est le soir du partage par excellence. Mais la personne qui reçoit a quand même quelques responsabilités sur l'ambiance de la soirée. J'ai rencontré Jérémy Combe, c'est le spécialiste du savoir-vivre. Il a quelques conseils pour un réveillon top niveau.
Vous devez lancer les conversations, peut-être mettre de la musique dès le départ, parce que danser, ça crée du lien. Vous savez que les cinq sens doivent être en éveil quand on passe à table. C'est pour ça qu'on fait un centre de table, c'est pour la vue. On met un peu de musique pour l'ouïe. On met des saveurs dans les plats pour l'odorat. Le toucher, la nappe et les serviettes justement. Donc il faut vraiment que vous fassiez un petit effort ce jour-là. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est dresser une jolie table à la française. C'est-à-dire que les dents de la fourchette regardent la nappe. Et surtout, n'oubliez pas le traditionnel gui. Il faut s'embrasser sous le gui. On dit que ça porte bonheur et aisance toute l'année.
Eh ben voilà, si ça porte bonheur, c'est un spécialiste du savoir-vivre qui le dit. Alors après, chez les jeunes... Il y a toujours ce côté art de vivre traditionnel pendant le réveillon avec la fourchette calée dans du bon côté.
Alors pas toujours, hein. C'est d'ailleurs ce que raconte Jean Viard, il est sociologue au CNRS. Et pour lui, le réveillon, c'est plein de rituels, bien s'habiller, déguster des aliments de fête, danser et boire des bulles, mais pas que des bulles.
Noël se concentre sur l'enfance. Le 31, c'est les amis. Et on sait très bien que le 31 est un jour d'alcool et de sexe. Il faut dire les choses comme elles sont, notamment chez les jeunes.
Qui est né mercredi pour le réveillon, quel programme
Oui,
je suis en train de penser au fait que je vais me coucher vers
22h. C'est ça.
Très décevant.
C'est pas pour tout le monde, on est d'accord. C'est surtout chez les jeunes, en effet, que c'est un peu alcool et sexe. C'est ce qu'ils nous racontent. Et est-ce que vous savez qu'il y a un pic des naissances en septembre, donc 9 mois environ après les fêtes de fin d'année? Un gros enjeu de réarmement démographique se joue donc ce mercredi au réveillon.
C'est quand votre anniversaire, Bérangère?
Moi, c'est en août.
En août.
Donc, un petit peu avant.
Le calendrier de l'avant, Bérangère. Et vous, Martin Bourdin?
Moi, c'est septembre et j'ai deux frères qui sont nés en septembre aussi.
Oh, okay.
Et ben voilà.
Bon, j'avais demandé à mes parents
sur le plateau.
Je connais plein de journées en septembre auxquelles je pense ce matin. Vous faites quoi pour le réveillon, vous, autour de la table, tiens?
Je sais pas, mais j'ai une petite surprise pour vous, Mathieu.
Allons-y.
Ouais, voilà. J'ai une petite surprise parce que j'ai demandé à des stars de l'antenne de me raconter leur pire réveillon. J'espère que vendredi, vous nous raconterez votre pire réveillon, Mathieu. En attendant, c'est Arnaud Demange que j'ai interrogé, notre humoriste du matin. Son pire réveillon, c'était celui de l'an 2000.
J'ai été invité par la fille populaire du lycée. Dans les séries américaines, c'est la pom-pom girl en chef, quoi. Il y a 60 personnes, bon, c'est pas méga fun. En plus, on est obligé d'être tous en costard. Donc, je fais mon réveillon en costume trop grand de chez Célio. Et je retrouve deux potes là-bas et on se dit, bon, c'est nul, on se casse, on va faire un truc beaucoup plus marrant. Et on a décidé d'aller explorer notre lycée de nuit. Donc, on est monté par-dessus les grilles, on s'est râpé les costumes, donc le costard foutu, mes parents étaient ravis. Et on a exploré notre lycée de nuit. Et en fait, c'est nul! C'est nul! Parce que c'est les mêmes salles que quand t'es en journée, c'est les endroits que tu connais, c'est des endroits qui n'ont absolument aucun intérêt. Et on est revenu, la fête était finie. Et en fait, ton réveillon de l'an 2000, tu te dis, ça va être génial, il y aura des feux d'artifice, des tas d'animations, je vais passer un moment mémorable. Et en fait, non, on était trois couillons dans un lycée désert qu'on connaissait déjà. On est bête quand on a 18 ans.
Ah oui, heureusement qu'on est bête un peu à 18 ans. Bon, le réveillon des gens qui vous parlent là ce matin, ils risquent d'être un peu sobres. Mais promis, je réfléchirai à ce que je vous raconte vendredi.
Okay, merci Bérangère. On va savoir.
Les traditions du Nouvel An tous les matins, juste avant 8h avec Bérangère Bocquillon à la une du journal de 8h. Brigitte Bardot et puis dans un instant la météo avec un froid qui pique, si j'ose dire, sur une large partie du territoire. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.